Ça vous intéresse pas?
Non, non plus.
Est-ce qu'il y a un sport qui vous intéresse?
Ben oui, moi j'aime bien cette animation, moi j'aime bien ça.
Bienvenue dans Grand Écart, l'émission qui a pour ambition de parler de sport à tout le monde. On va être dans l'analyse critique, le recul historique,
le recul absolu et le liftage.
Parler de très nombreux sujets de société, le sport va être notre fil rouge. L'idée, c'est d'intéresser les passionnés comme moi, mais aussi ceux qui détestent le sport.
Et le bout du fil.
Moi, c'est Mathieu. Baseball. Et c'est parti.
Basketball. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de pratiquer... C'est une espèce de défoulement.
Eh ben alors, ça, je suis en rage.
Pourquoi vous êtes sportif?
Est-ce que vous auriez joué au...
Le football! Sports!
Heaven wants us to win this game! Écoutez, moi, je n'ai plus l'âge de jouer au football, mais ça m'intéresse quand même.
On n'aura pas l'esprit du Real de Madrid.
Vous êtes sur Jet FM. Et c'est l'heure de parler sport et société. Séoul, 1988, finale du 100 mètres olympique. Un corps musculeux, un doigt levé, le regard tourné comme pour toiser son adversaire de toujours, Carl Lewis. C'est une des victoires sportives les plus spectaculaires de tous les temps. Ben Johnson vient de battre le record du monde du 100 mètres. Et cette image d'une incroyable victoire va devenir pour l'histoire celle de la plus grosse triche qu'on ait jamais vue.
Troisième couloir, champion olympique en titre et deuxième championnat du monde l'année dernière.
Donc aujourd'hui, on va parler de Ben Johnson, un sprinter canadien qui a gagné le 100 mètres olympique des Jeux de Séoul en 1988 devant l'intouchable Carl Lewis et qui a été déclassé pour dopage aux stéroïdes dès le lendemain de la course. Donc c'est une course extrêmement célèbre dans l'histoire de l'athlétisme qui va nous permettre d'ouvrir sur toute la période et notamment sur la substance en question, les stéroïdes, comprendre ce que c'est, d'où ça vient et quelle place ce produit a laissé dans l'histoire du sport parce que certains temps records sont figés à cette époque du fait de cette substance. Donc la course en question, la finale du 100 mètres olympique des Jeux de Corée du Sud,
Lewis. Troisième couloir, Ben Johnson.
Elle a un surnom dans l'histoire, The Dirtiest Race in History, donc la course la plus crade de l'histoire.
Superbe départ de Ben Johnson, Carl Lewis est en retard mais il me semble remonter. Ben Johnson a gagné, Ben Johnson est en tête.
En fait, Ben Johnson gagne assez facilement en 9,79, qui est record du monde à l'époque, devant Carl Lewis qui n'a quasiment pas perdu depuis 10 ans. Donc c'est un exploit absolument retentissant. L'équipe en France, par exemple, va titrer historique. Et puis, dès le lendemain, on a un deuxième son de cloche sur le journal français. C'est Johnson, le scandale. Alors, tout est au conditionnel parce que la Corée du Sud se trouvant au bout du monde, il y a le décalage horaire qui fait qu'on est obligé d'attendre la confirmation là-bas. Donc, l'équipe écrit au conditionnel que Ben Johnson aurait été contrôlé positif à un produit dopant. Mais comme voilà, les quelques heures de latence font que le journal français est obligé de mettre un peu des guillemets. Et puis finalement, le scandale éclate pour de bon. Donc le journal américain Sports Illustrated, par exemple, le grand journal de sport américain, fait sa une dessus en écrivant « Busted ». Il s'est fait choper. Et effectivement, Ben Johnson est déclassé pour dopage aux stéroïdes. Il est canadien.
C'est attristant pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, qui ont été si fiers de sa victoire il y a à peine... 72 heures. Alors voilà, les règles sont là pour tout le monde. Il s'agit d'un problème des plus sérieux.
Alors le truc, c'est que Ben Johnson va être seul à se faire prendre. Et ce qui va être très intéressant dans tout ce développement-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi lui est tombé, mais pas les autres. Parce que l'usage est quasiment généralisé à l'époque. On peut prendre par exemple la finale en question, le 100 mètres masculin, et avec le recul historique, on sait que 6 des 8 engagés ont été pris dans la tourmente de la lutte antidopage à un moment donné de leur carrière, dont Carl Lewis, dont Linford Christie, le Britannique, les deux autres Canadiens, les deux autres Américains, le Jamaïcain. Ils sont que deux sur les huit à n'avoir jamais été pris par la patrouille. Alors ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dopés, ça veut juste dire qu'ils se sont pas fait prendre. Parce que pour atteindre une finale olympique dans un monde pareil, sans se doper, en soi, ça semble extrêmement compliqué. Alors Ben Johnson va être un peu ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Il va prendre pour tout le monde et on va vraiment l'effacer de l'histoire. C'est-à-dire que ses temps, ses records, ses médailles, tout est effacé par les organes de direction de l'athlétisme mondial. Alors que quasiment tous les autres athlètes vont passer à travers les gouttes. On sait aujourd'hui que pendant une ou deux décennies, les stéroïdes ont été l'arme de développement des performances massives partout sur Terre et qu'il était loin d'être tout seul. Voilà, c'est très intéressant de comprendre pourquoi c'est lui la tête de turc de tout le modèle. Et donc on va essayer de déterminer le processus qui l'a amené à se faire prendre. Donc si on prend par exemple les médailles retirées dans l'histoire olympique pour dopage, donc on a un tableau et on voit qu'on a les soviétiques et les russes qu'on va mettre ensemble, c'est le même pays qui a changé de nom. Ils sont très très loin devant, avec plusieurs dizaines de titres olympiques et de médailles retirées pour dopage. Et puis vous pouvez mettre dans la même charrette, si on veut, l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, tous les pays de l'ex-Union soviétique, et la Chine par exemple, qui est un autre géant communiste de l'époque. On va avoir une immense majorité des médailles retirées qui sont pour ce bloc de l'Est. Les Américains suivent avec 7 ou 8 médailles d'or olympiques retirées, dont 5 pour la seule Marion Jones, qui était une légende début des années 2000, qui est tombée pour dopage et qui, a elle toute seule, représente quasiment toutes les médailles retirées de l'histoire de l'athlétisme américain. Donc on a un bilan qui est extrêmement clair. Le bloc communiste a eu énormément de titres retirés. Le bloc américain, beaucoup moins. Et pourtant, la conclusion simple, ce serait de dire les Russes se dopent, pas les Américains. C'est pas du tout ça la conclusion qu'il faut tirer. C'est les Américains se dopent peut-être mieux et en tout cas ne se font pas prendre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire à mes yeux. On a par exemple Florence Griffith Joyner, qui est une immense athlète de l'histoire de l'athlétisme américaine, Flo Jo de son surnom. Et si vous regardez les classements, les records du monde actuels, c'est elle qui détient le record du monde du 100 mètres, l'épreuve reine, et le record du monde du 200 mètres féminin. Donc c'est des temps qui datent de 1988, l'année des Jeux Olympiques où Ben Johnson s'est fait prendre. Et cette femme, Flo Jo, ce qui est très intéressant déjà pour commencer avec elle, c'est qu'on a l'Olympiade précédente, 1984, des photos d'elle, très féminine, assez fine, déjà très performante, mais elle n'est pas sur des temps comme ça. Et puis 4 ans après, elle se présente aux Jeux de Séoul avec un corps complètement changé, qu'on pourrait qualifier de bodybuildé, beaucoup plus musculeux, beaucoup plus masculin, et des performances absolument stratosphériques. Donc elle ne les fait pas aux Jeux Olympiques, elle les fait quelques semaines avant en meeting anonyme, mais elle pulvérise des temps qui sont toujours les records du monde. Et cette femme-là est morte à 38 ans d'un arrêt cardiaque. Donc son corps a dit stop. Il n'y a pas de preuve factuelle que l'usage intensif des stéroïdes a changé son corps, l'a fait courir plus vite et l'a tué. Mais, comme on dit dans la police, le faisceau d'indices concordants laisse peu de place au doute. Donc on va vous mettre l'extrait sonore commenté par les commentateurs américains de cette course. Et ce qui est intéressant à la fin, je vous laisse écouter d'abord, et puis on revient dessus juste après. Fastest that any woman has ever run. Of course, the win will mean that it won't count. But this has been a great year for her. She was a medalist in 84 at 200 meters, but now she's out to 100, and she's one of the top contenders. Gail Devers is in lane 4. Lane 1 is open, and quickly, Lars Griffith Joyner blowing away the field. The anemometer says the wind was within the legal limits. Ah, cannot be. No one can run that fast. The heat here must be doing something to the electronics, but she won by such a margin over Gail Devers, who this year set the American record in the 100-meter hurdle. So that was a good field, and you can see how much she won by. It might be right. Thank you. Et donc vous avez le commentateur américain qui dit « Cannot be, must be something with the electronics, no one can run that fast ». C'est pas possible, il doit y avoir un problème électronique, personne ne peut courir si vite. Donc ça, c'est la réaction sur l'instant du commentateur américain. 10.49, record du monde pulvérisé. Et depuis, malgré toutes les nouvelles générations de produits dopants, toutes les nouvelles nations qui se sont mises à se doper et à être très performantes en sprint, notamment dans la Caraïbe, les Bahamas, la Jamaïque évidemment, les Américaines, personne n'a jamais réussi à battre ce temps, ni son record du 200 mètres. Donc on a des temps qui sont figés dans une époque de dopage systématique, il y a 40 ans, et on peut donc dire de manière très sereine que si un jour quelqu'un fait mieux, le doute sera instantané, et le doute sera légitime. Parce que c'est pas possible en fait, on voit à travers l'évolution des records dans le temps que les records sont battus systématiquement. Sauf cela, l'athlétisme féminin a vu ses temps figés dans les années 80, l'époque des stéroïdes. Et à partir d'un moment, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, on a réussi à trouver les stéroïdes dans les échantillons sanguins des athlètes, qui ont donc dû arrêter d'en prendre, sinon ils ne pouvaient plus courir. Et depuis ce jour-là, les records sont figés dans le passé. Donc ça, c'est ce que nous explique Dick Pound, qui est à l'époque très important. Il est vice-président du CIO, c'est un Américain, et qui nous dit que Ben Johnson, qui s'est fait prendre, a été l'arbre qui a caché la forêt de tous les autres, et notamment Florence Griffith Joyner, qui est son pendant féminin exactement à la même époque. Et en fait, les temps de Flo Jo auraient dû, selon lui, allumer toutes les alertes, lancer la machine de la lutte, et en fait, Ben Johnson s'étant fait prendre, ils se sont dit « ça y est, on a fait le taf ». On en a pris un, on a pris l'homme qui a gagné le 100 mètres, la course la plus importante, et en fait, ça a éteint le reste. Ça a pris tellement d'importance qu'on n'a pas été faire le taf sur les autres courses, les autres disciplines, et notamment chez les femmes. Donc il y a Flo Jo, évidemment, 100 mètres, 200 mètres, mais quand vous regardez les records du monde actuel de l'athlétisme féminin, vous en avez énormément qui datent de cette période. Donc vous avez par exemple Marita Kor, allemande de l'Est, qui a le record du monde du 400 mètres. Jarmila Kratochvilova, tchécoslovaque, qui a le record du monde du 800 mètres. Vous avez Jun Xia, la chinoise, qui a le record du monde du 3000 mètres. Kostadinova à la hauteur. Tchistiakova, la soviétique, à la longueur. Lisovskaya au poids. Reinsch, l'allemande de l'Est, au disque. Vous avez Jackie Joyner-Kersee à l'heptathlon, une américaine. Vous avez Ryashkina sur le 10 km marche. Vous avez le relais soviétique du 4x400, du 4x800. Tous ces temps-là sont figés entre 1983 et 1993, qui est une période extrêmement précise, celle des stéroïdes. Et ces temps sont imbattables. Et si jamais un jour ils sont battus, on aura le droit de se poser la question de comment on a fait pour courir plus vite que des gens qui prenaient tous des stéroïdes. Donc là, il faut faire un petit retour en arrière et expliquer le principe de la lutte antidopage. Alors déjà, pour être très rapide, il y a des séquences dans l'histoire de la lutte antidopage, c'est-à-dire que pendant longtemps, elle n'existe pas. Il y a du dopage, mais pas de lutte antidopage. La première phase, c'est un espèce de n'importe quoi, tout le monde prend ce qu'il veut. On a par exemple Thomas Hicks, le vainqueur du marathon de 1904 aux Jeux Olympiques de Saint-Louis, qui a pris 10 km avant l'arrivée, un mélange de blanc d'œuf, de gnôle et de morora, la strychnine. Donc ça lui a mis un coup de fouet, mais à quelques mètres de l'arrivée, il s'est effondré et il y a des gars qui ont été obligés de le porter pour passer la ligne d'arrivée, ce qui est totalement interdit aujourd'hui. Mais on pouvait prendre de la morora avec de l'alcool comme dopant au début. Il n'y avait pas de lutte antidopage. Ensuite arrivent les amphétamines, qui sont un produit extrêmement puissant, qui vont être utilisés de plusieurs façons, comme sérum de vérité par les armées pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on utilise beaucoup les amphétamines comme armes de guerre. C'est des effets extrêmement puissants. On n'a plus sommeil, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on a une énergie décuplée, on n'a plus aucune empathie. On peut tuer quelqu'un et on n'en a pas grand-chose à faire. Quand vous avez, par exemple, l'armée allemande qui a distribué plus de 200 millions de doses à la Wehrmacht, qui fait ce qu'on a appelé le Blitzkrieg, la guerre éclair, c'est des gens qui sont tous chargés aux amphètes. Et en face, vous avez des gens, l'armée française par exemple, qui a faim, qui a froid, qui a sommeil, qui recule et qui se fait marcher dessus. Et en fait, la guerre éclair, elle est beaucoup due à l'usage massif des amphétamines par l'armée allemande. D'ailleurs, il y a un moment de bascule dans la guerre quand on a détruit les usines de production allemandes et que d'un coup, toute l'armée allemande a été en manque. Et ça, c'est assez peu étudié à l'école, ça me semble pourtant intéressant. Il y a un moment de bascule où la Wehrmacht, la guerre éclair, n'est plus possible parce que les mecs, ça y est, ils ont froid, ils ont faim, avec même les effets décuplés par l'effet de manque. Donc on a les amphétamines pour la guerre, mais pour le sport aussi. Dès cette période-là, les années 38-39, on a des espèces de no-name qui deviennent recordman du monde du 1500 mètres, un luxembourgeois. Vous avez un cycliste italien qui prend 7 cachetons d'amphétamines avant d'aller battre le record du monde de l'heure sur piste, donc tourner en rond pendant une heure en vélo. Ça doit être 41 ou 42, donc pendant la guerre. Et puis vous avez du coup la généralisation de l'usage des amphétamines dans le sport, qui va être dramatique. Il y a pas mal de morts, notamment la plus connue, c'est Tom Simpson, qui est mort en montant le Ventoux pendant le Tour de France, qui est mort en direct à la télé, qui va être héliporté vers l'hôpital d'Aix-en-Provence et déclaré mort dans la foulée. Une mort qu'on célèbre chaque année sur le Tour de France. Une mort spectaculaire, en direct à la télé, qui a marqué les esprits. Il y a Knut Janssen, qui est mort pendant les Jeux Olympiques de Rome en 1960, pendant l'épreuve cycliste aussi, en direct à la télé. Donc il y a des morts très spectaculaires, qui sont dues en général au même package, à savoir effort très intense, 5-6 heures de vélo dans une montagne, chaleur très élevée et surdose d'amphétamines. Ce cocktail-là peut être fatal. Ce n'est pas systématique, mais ça peut. Quand on va avoir ces décès-là, on va commencer à prendre conscience de l'ampleur du problème et on va mettre en place, notamment depuis la France, la lutte antidopage. Donc d'abord, c'est des débats d'universitaires, c'est des choses comme ça. Et puis, il y a une loi en France, la loi Herzog, en 65, qui fait que la lutte antidopage devient un fait concret et que le dopage devient un délit. On peut être sanctionné pénalement pour être dopé dans le sport. Donc on va avoir d'abord les cyclistes qui vont se plaindre, qui vont faire grève contre les premières luttes antidopage. Jacques Anquetil est très très contre, qui est le leader à l'époque. Il y a comme ça une révolte des cyclistes contre la naissance de la lutte antidopage. Et puis progressivement, on va déterminer des tests qui sont capables de voir s'il y a des amphétamines ou pas. Et tout le monde va tomber, que ce soit les inconnus, ceux qui sont devenus champions sans prévenir, ou les immenses comme Eddy Merckx qui est tombé deux fois. Et les amphétamines deviennent synonyme de suspension, de bannissement, de fin de carrière, etc. Et donc, il faut arrêter d'en prendre. Donc, toute cette phase-là, elle dure assez longtemps. Et donc, on se retrouve à l'époque où les amphétamines, c'est plus possible. Et il faut changer de substance. Donc là, le scénario est quasiment toujours le même. Une substance devient impossible à prendre parce que la lutte antidopage a avancé. Il faut changer et on rentre dans la phase où on se dope. La recherche va devoir récupérer son retard. On entre dans la phase des stéroïdes qui donnera ensuite la phase de l'EPO et ensuite la phase actuelle, celle de on ne sait pas ce qu'ils prennent, mais ils vont toujours plus vite, donc c'est sûr qu'ils prennent quelque chose. Donc j'arrive au début des années 80. Donc comme la plupart des sports organisent déjà championnat du monde, coupe du monde pour internationaliser et gagner de l'argent, l'IAAF, qui est donc la FIFA de l'athlétisme, va organiser le premier championnat du monde d'athlétisme en 1983. Donc il a lieu à Helsinki, en Finlande. C'est Primo Nebbiolo, un ancien d'Adidas qui est à la tête de l'athlétisme mondial. Un jour, je développerai sur le rôle d'Adidas dans les couloirs du sport mondial. Et on a à cette période-là, exactement en même temps, un chercheur allemand qui s'appelle Manfred Dönicke, qui va trouver une méthode pour déterminer si on a des stéroïdes dans les échantillons sanguins des athlètes. Au premier championnat du monde d'athlétisme, 1983, en Finlande, on peut se faire choper. Mais à une condition, il faut que le chercheur allemand soit présent sur place avec sa machine. S'il est là, vous êtes en danger. S'il n'est pas là, vous êtes peinard. Il n'y a qu'une machine sur Terre qui peut vous faire tomber. Au championnat du monde de 1983, on n'a aucun athlète dopé. Pas de contrôle positif. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est que la semaine suivante, on a les championnats panaméricains. Donc ça représente Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, une espèce de Jeux olympiques pour le vaste continent américain en entier. Et au championnat panaméricain, on a de l'athlétisme. Et là, Manfred Dönicke se présente avec sa machine, le chercheur allemand qui peut vous faire tomber. Et, comme par hasard, toute la délégation américaine d'athlétisme, ainsi que celle d'haltérophilie, un autre sport très très féru de dopage, vont déclarer forfait le jour du début de la compétition, donc c'est quasiment 300 athlètes qui sont concernés, pour intoxication alimentaire collective. Donc le poisson était vraiment pas frais. Ou alors, ils se sont dit, tiens, l'Allemand est là, on va peut-être pas pouvoir y aller. Donc il y a une corrélation surprenante entre le championnat du monde sans aucun contrôle positif et le championnat panaméricain avec ses forfaits collectifs qui sont extrêmement douteux. Donc là, on a une phrase de Robert Voigt, qui est l'ancien médecin-chef du CIO américain, donc le médecin de l'équipe américaine, qui nous dit « Je n'ai qu'une seule explication. Certains athlètes de Caracas, donc au championnat panaméricain, étaient aussi à Helsinki. Là-bas, ils ont été contrôlés positifs, en ont été informés et tirés d'affaire. La rumeur voulait toutefois que quiconque serait contrôlé positif à Caracas serait sanctionné. Probablement parce que c'était un comité panaméricain qui était responsable des contrôles et non la Fédération internationale. » En gros, ça veut dire que la Fédération internationale, pour ne pas gâcher les premiers championnats du monde d'athlétisme, a organisé le silence sur les contrôles positifs qui étaient là, mais ont été tus. On n'en a pas parlé, ils étaient là, mais il ne fallait pas gâcher la fête. Donc au championnat du monde de 1983, c'est Carl Lewis qui va être sacré pour la première fois sur le 100 mètres. Carl Lewis, c'est un personnage absolument majeur de l'histoire de l'athlétisme. C'est 9 titres olympiques, c'est le record absolu, une médaille d'argent, 8 fois champion du monde. En gros, dans le palmarès olympique ever en athlétisme masculin, vous avez Paavo Nurmi, un Finlandais des années 20, qui a 9 titres olympiques, qui a été banni par le CIO pour professionnalisme. Il a touché de l'argent un jour pour faire une course et il n'a pas pu faire toutes les Olympiades auxquelles il aurait pu participer pendant sa carrière. Donc lui, il en a 9, il aurait pu en avoir plus. Carl Lewis, il en a 9, et Usain Bolt en avait 9, puisqu'il a fait 3 triplés. Usain Bolt a fait le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres en or à chaque fois, 3 fois de suite. Mais il y en a une de ses médailles d'or qui a été retirée parce que son camarade de relais, Nesta Carter, a été sanctionné pour dopage. Donc la Jamaïque a perdu une des médailles de relais, et donc Usain Bolt n'a plus que 8. Donc Carl Lewis est tout seul, avec Paavo Nurmi, sur le panthéon des palmarès olympiques. Ce qu'on sait moins avec Carl Lewis, c'est qu'il a été contrôlé positif 2 fois. 2 mois avant les Jeux de 1988, il a été contrôlé positif à l'éphédrine et à la pseudo-éphédrine, avec des taux si faibles qu'aujourd'hui, il ne lui vaudrait pas d'être sanctionné. Donc ça, c'est très surprenant. C'est l'idée que le taux de produits dopants dans votre corps, sanctionnable, change avec le temps, ou selon qui vous contrôle. Si on voulait faire un parallèle cohérent et qui parle à tout le monde, ce serait l'alcool au volant. Quand vous êtes en France, ça va être 0,4 grammes par litre. Si vous êtes dans un autre pays, ça va être 0,3, 0,5. Des fois, si vous avez moins de 2 ans de permis, ça va être 0,25. Le taux qui vous fait être sanctionné parce que vous avez bu et que vous conduisez, il est mouvant, selon l'endroit, selon l'époque. C'est un peu le même principe. Donc si on veut être complètement rationnel avec l'alcool au volant, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est zéro. Si vous avez bu ne serait-ce qu'une gorgée d'alcool, vous n'êtes plus dans les clous. Parce qu'on peut très bien entendre qu'une jeune femme frêle de 50 kilos qui boit 2 verres de vin atteigne un certain seuil déjà sanctionnable. Et qu'en face, vous ayez un grand gaillard de 2m10 qui fait du rugby et qui vous dit « moi, les 2 verres de vin, je peux les boire et conduire ». Et ce serait presque vrai. Du coup, il n'y a pas de chiffre rationnel, à part zéro. Donc le dopage, c'est pareil. Vous ne pouvez pas dire 0,2, 0,4 ou 0,1. Non, le dopage, c'est 0. Si c'est un produit qui n'est pas naturellement produit par le corps, vous n'avez pas le droit d'en prendre. Sinon, vous êtes éliminé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme l'alcool. Ça va, ça vient, ça change. Et donc, les taux de Carl Lewis à l'époque sont des taux qui, aujourd'hui, sont acceptés. Alors qu'à l'époque, il aurait dû être sanctionné, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est des contrôles positifs qui ont été tus. Des fois, on n'a même pas fait l'échantillon B. Hein. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne dans le dopage. Vous êtes contrôlé une fois positif, on recontrôle le deuxième échantillon pour vérifier qu'il n'y a pas eu une erreur. Et quand l'échantillon B est aussi positif, là, vous êtes déclaré dopé. On n'a même pas fait l'échantillon B pour Carl Lewis. On lui a quand même demandé en interne de se justifier. Il a dit qu'il utilisait à outrance le Mawang, un thé chinois, donc pour se détendre, et que là-dedans, il y aurait de l'éphédrine. Et donc, c'est ça son excuse. Bon, très corsé, le thé. Donc ce contrôle positif n'a fuité que 18 ans plus tard dans la presse. Voilà, bien après la performance, les médailles sont toujours là. Et Carl Lewis, lui, a une réputation immaculée. C'est quelqu'un dont le grand public ne sait pas qu'il a été contrôlé positif à cette époque-là. Donc on est 5 ans avant Ben Johnson. Donc pour beaucoup d'observateurs à l'époque, ce qui semble évident, c'est que les Soviétiques se chargent, et leurs alliés, l'Allemagne de l'Est, les Bulgares, etc., et qui sont les seuls à utiliser ces produits. Mais on sait aujourd'hui que c'est faux. On sait que les Américains se dopaient, on sait que les Américains se dopaient à grande échelle. On a même eu les aveux de Robert Kerr, qui était le médecin de l'équipe américaine dans les années 80, et qui a avoué publiquement avoir dopé aux stéroïdes plus de 3000 athlètes pour les Jeux de Los Angeles en 84 et les Jeux de Séoul en 1988, dont plus de 15 ont eu des titres olympiques, sans que jamais aucun nom ne fuite et aucune médaille ne soit retirée. Les Jeux Olympiques de 1984, par exemple, Los Angeles, on n'a que 12 contrôles positifs en tout, dont un seul concerne un médaillé, donc c'est le Finlandais Vainio sur le 10 000 mètres, mais en gros, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dopage aux Jeux de 1984. On a des choses extrêmement étranges. On a un Belge, Alexandre de Mérode, prince de son statut officiel, qui était dans la commission médicale du CIO, qui a avoué, sur son lit de mort, hein, juste avant de partir, que de nombreux échantillons positifs ont été détruits le soir de la cérémonie de clôture des Jeux de Los Angeles, notamment celle de Linford Christie, le Britannique, qui avait fait 3e du 100 mètres. Donc on a voilà, des aveux de gens qui, ici et là, nous ont expliqué le fonctionnement du sport mondial à cette époque-là, que ce soit via les institutions, que ce soit via les pays. Et on a effectivement ceux qui se font prendre, qui sont peut-être moins rodés, moins efficaces, qui sont ceux du bloc de l'Est. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une autre séquence historique qu'on a appelée la course aux médailles. C'est en gros l'idée de la guerre froide à travers le sport. Donc c'est un phénomène qui a mis du temps à se mettre en place. Il faut faire un petit pas de côté sur l'histoire russe, parce que vous avez en 1917 la révolution bolchevique, Lénine, et puis la mise en place du régime soviétique. À ce moment-là, on considère l'olympisme, donc qui vient de France, Coubertin, l'aristocratie, comme un truc de bourgeois. Et c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans l'idéologie communiste, et donc on boycotte les Jeux olympiques depuis l'URSS pour ne pas participer à cette farce bourgeoise. À l'époque des tsars, ils avaient participé un tout petit peu aux premières éditions, en prenant quelques médailles par-ci par-là, mais la Russie n'était pas un grand pays de sport à cette période-là. Et puis Staline arrive au pouvoir, et Staline va révolutionner la façon de penser en acceptant l'idée d'aller se confronter au bloc occidental par le sport, en prouvant la supériorité soviétique par les résultats, les médailles, les titres, les choses comme ça. Donc commence à ce moment-là la course aux médailles. Dans un premier temps, il va falloir être intégré à l'olympisme. Et qui dit Jeux Olympiques dit amateurisme obligatoire. On n'a pas le droit d'être payé, mais même un centime dans sa vie, sinon on est exclu pour toujours de l'olympisme. Donc il va y avoir, dans ce grand mouvement aristocratique franco-anglais, une phase d'enquête sur les athlètes soviétiques pour savoir s'ils ne sont pas salariés. Donc ils vont à Moscou voir les athlètes soviétiques qui s'entraînent et qui sont nourris, logés, blanchis, mais qui ne gagnent pas un centime et qui sont donc déclarés officiellement amateurs. Et en 1952, l'URSS intègre les Jeux Olympiques, aux Jeux d'Helsinki en Finlande. À partir de 1952 commence donc officiellement la course aux médailles. On est dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, et ça va durer jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique. Il y a un espèce de truc avec des ruines de ce qu'était l'Union soviétique en 1992, la CEI. Donc on peut dire que la course aux médailles a duré de 1952 à 1992. Ça concerne 13 Olympiades. Il y en a une où les Américains ne sont pas venus, les Jeux de Moscou en 1980, le boycott est massif du camp occidental. Il y en a une où les Soviétiques et leurs alliés ne sont pas venus, celle d'après, les Jeux de Los Angeles 1984. Du coup, nous avons 11 Olympiades communes, et c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, les Soviétiques qui ont gagné la course aux médailles, puisque 7 fois sur 11, ils arrivent en tête du classement des médailles. Donc ils se sont beaucoup fait choper, mais pas tout le temps. Ils ont aussi beaucoup gagné, et ils ont gagné la course aux médailles, la guerre froide du sport. Donc on a, dans la famille des stéroïdes, plusieurs produits, et en 1984, aux Jeux de Los Angeles, ce qui précède notre affaire Ben Johnson, il y en a un qui est impossible à découvrir dans les échantillons, qui s'appelle le stanozolol. On va avoir l'alliance de deux médecins, un Américain et un Allemand, qui vont faire chacun de leur côté leurs recherches, qui vont même aller jusqu'à s'injecter eux-mêmes le produit pour tester leur propre sang, parce que c'est un produit qui est dangereux, s'envoyer les échantillons, et puis, progressivement, déterminer une méthode qui permet de repérer ce produit dans les échantillons sanguins. C'est ce produit-là qui fera tomber Ben Johnson en 1988, encore une fois avec un des rares labos sur Terre capables de le trouver. Dans l'immense majorité des courses, vous êtes peinard, il n'y a pas de machine suffisamment high-tech et au point pour prouver au reste du monde que vous êtes dopé. Donc Ben Johnson va se faire prendre, contrôle antidopage après la course. Et ce qui est génial à ce stade-là, c'est qu'il y a deux théories qu'on pourrait appeler complotistes qui sont présentées par Ben Johnson pour sa défense. La première, il va la tenir pendant plus de 20 ans. Et puis au bout de, je crois, c'est 24 ans, il va changer de version. Et sa deuxième version me plaît plutôt. Je vous raconte les deux. La première version, il fête sa victoire. Et là, dans cet endroit-là, se trouve un type qui n'aurait normalement rien à faire là, qui s'appelle Andrew Jackson, qui vient du Nigeria, qui est diamantaire. Il vend des diamants et qui est, c'est officiel, un ami de Carl Lewis, le rival sportif de Ben Johnson. Et Andrew Jackson, beau joueur, paye des bières à Ben Johnson pour fêter sa victoire. Une, deux, quatre, six, huit bières. Il avait soif. Et donc la théorie de Ben Johnson, c'est que Andrew Jackson, le type qui avait rien à faire là, a mis le produit dopant dans les bières qu'il lui a payées après la course et que c'est pour ça que son contrôle s'est avéré positif. Il a été même jusqu'à dire un jour
qu'il a enregistré les aveux de ce type-là et qu'il aurait malheureusement perdu la cassette.
Quel dommage, hein ! Quand vous pouvez sauver votre honneur, vous avez la cassette dans la poche, vous la perdez, pas de chance. Donc ça, c'est la première version qui dure donc de 1988 à 2014. Et en 2014, Ben Johnson change de version. Dans le journal Le Monde, en France, il est interviewé. Donc on est très exactement 26 ans après les faits, et Ben Johnson change de version. Et celle-là, complotiste assez clairement, me plaît bien. Je vous raconte. Donc au début des années 80, il y a toute une phase de lancement de marques de sportswear qui viennent essayer de rivaliser avec les deux géants allemands que sont Puma et Adidas, qui viennent de la même famille, on racontera ça peut-être un autre jour dans un autre épisode. Mais dans les années 80 arrivent Nike aux États-Unis, Reebok, les Anglais, ASICS, les Japonais, toute une série de marques comme ça. Dans le lot, il y en a une qui s'appelle Diadora, qui existe toujours, qui n'est pas la plus puissante, mais qui est quand même une marque tout à fait imposante et qui choisit Ben Johnson comme étant son égérie, celui qui va être l'incarnation physique dans les pubs, etc. Sauf que Ben Johnson, il est chez Adidas, comme beaucoup d'athlètes, qui est le leader mondial du secteur, et il est débauché d'Adidas pour devenir l'égérie de Diadora. Et c'est là que le complot se produit. Voilà la déclaration de Ben Johnson dans Le Monde en 2014.
Quand on regarde les résultats de l'époque, seuls les athlètes de chez Adidas n'étaient jamais contrôlés positifs. Pourquoi ? Parce que la compagnie avait de bonnes relations avec le CIO. Il fallait éviter les scandales, éviter de ternir l'image d'Adidas. J'ai été contrôlé positif parce que j'ai quitté Adidas. Si j'étais resté chez eux, rien de tout cela ne serait arrivé. Le sport business est vraiment très sale, vous savez.
Donc c'est complotiste, il n'y a pas de preuves, mais quand on étudie de près les relations entre Adidas et le CIO, la façon dont l'entreprise allemande Adidas a fait mettre à la tête de toutes les grandes fédérations internationales, que ce soit la FIFA, celle de la natation, celle de l'athlétisme, et celle du football, la FIFA, par la corruption prouvée, des petits pays qui ont une voix au moment du vote, par des sacs de billets dans les chambres d'hôtel, Adidas a fait ça à grande échelle dans tous les sports sur des décennies pour placer des pions à la tête du sport mondial. Le président actuel du CIO, enfin qui vient d'être remplacé il y a quelques semaines, Thomas Bach, c'est un ancien d'Adidas et on peut démultiplier les exemples à l'infini. Le rôle d'Adidas dans la construction, la mise en place du sport business, les droits télé des Coupes du Monde, les droits marketing des Jeux Olympiques, tous ces trucs-là appartenaient à Adidas à un moment. Et effectivement, Adidas, c'est le parrain. Adidas, dans le sport mondial, c'est Marlon Brando dans le film. Si vous avez un problème avec Adidas, c'est vous qui perdez. Vous êtes mort. Et Adidas a tué beaucoup d'ennemis au long de sa longue domination, qui a été mise à mal par Nike depuis. Mais l'histoire d'Adidas, c'est l'histoire d'une domination sans partage. Et effectivement, quand vous êtes le sportif le plus connu du monde et que vous quittez Adidas, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, c'est complotiste, mais il y a des arguments quand même sous-jacent pour se dire il y a peut-être un petit peu de fond de vérité là-dedans. Du coup, il y a un truc qui est très intéressant avec Ben Johnson, c'est qu'il n'est pas américain, il est canadien. Et les Canadiens n'ont pas tant que ça de superstars dans l'histoire du sport mondial. C'est un peu l'équivalent, pour la France, d'un Léon Marchand, d'un Teddy Riner. C'est quelqu'un qui incarne la réussite sportive d'un pays à lui tout seul. Du coup, les Canadiens vont tomber des nues quand leur champion va être pris pour dopage et ils vont faire une enquête, une commission parlementaire, la commission Dublin, qui va essayer de déterminer le vrai du faux, retracer le parcours de dopage, le parcours de performance, la vie de Ben Johnson. Donc on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de cette commission, que Ben Johnson se dopait depuis 1982. Ils sont un trio, il a son entraîneur, Charlie Francis, et son médecin, qui vient d'une petite île des Caraïbes, Saint Kitts Nevis, qui s'appelle Jamie Astafan, qui a la particularité d'être un Caraïbien blanc, ce qui n'est pas fréquent, et qui mérite d'être souligné. Donc on a des protocoles absolument professionnels, on a l'arrêt des prises de produits dopants 6 semaines avant les compétitions pour que le corps ait le temps de se régénérer et qu'un éventuel contrôle s'avère à chaque fois négatif. Il ne s'est jamais fait prendre et il n'a jamais pris de stanozolol, le produit qui va le faire tomber. Et on apprend, grâce aux travaux, que 26 jours avant le début des Jeux Olympiques de Séoul, il a pris pour la première fois, sans l'accord de son entraîneur, seulement avec son médecin, en binôme dans le trio, un produit qui s'appelle le Winstrol V. C'est un produit qui est absolument original parce qu'on s'en sert normalement dans la boucherie chevaline quand on envoie les chevaux à l'abattoir avant de les manger. On leur injecte ça et les muscles font pop parce que ça fait plus de viande à manger. C'est ça qu'il a pris. Et dans ce truc-là, il y a un stéroïde qui s'appelle le stanozolol et qui va donc être le produit qui va déclencher toute l'affaire et précipiter sa chute. Il y a un truc qui est très particulier visuellement avec Ben Johnson à l'époque, c'est son corps absolument musculeux, bodybuildé, qui dénote dans l'athlétisme de l'époque, où on a des corps, même Carl Lewis, qui est l'ultra dominant, qui sont plus longilignes, moins clairement musculeux. Ben Johnson, il arrive avec un corps boule de muscles qui va devenir la norme après. On a d'autres exemples hein, dans les années 90 de sportifs extrêmement musclé, à un niveau presque surprenant visuellement. C'est le premier de cette longue liste. Donc dans un premier temps, Ben Johnson est suspendu 2 ans par l'IAAF, la Fédération Internationale d'Athlétisme. Il va revenir à la compétition en 1991 et être repris pour dopage, suspendu à vie. Il va revenir dans le monde amateur, dans lequel il a le droit de concourir malgré sa suspension, et il va être pris pour dopage dans le monde amateur, et il va être suspendu à vie du monde amateur. Triste fin pour un immense champion. Il faut aussi faire la fin de carrière de son coach et de son médecin, parce que ça vaut le détour. Charlie Francis, entraîneur canadien, est suspendu à vie par la Fédération canadienne. Il va s'expatrier aux États-Unis. Et il va se retrouver dans un camp d'entraînement du côté de Los Angeles qui s'appelle HSI avec Marion Jones, son ex-mari Tim Montgomery, Atto Boldon de Trinidad, Maurice Greene du 100 mètres et puis Marie-Josée Pérec. Et tous les membres, à une exception près de ce groupe, vont tomber pour dopage. La seule qui est passée entre les gouttes, c'est Cocorico Marie-Jo. Et puis le dernier, pour finir, c'est le médecin Jamie Astafan, qui a toujours nié avoir dopé Ben Johnson. Il a été interdit de pratiquer la médecine dans l'Ontario, donc l'État canadien dont ils venaient tous les trois, et on l'a arrêté en 1994 sur un trottoir de Miami, en Floride, vendre à la sauvette de la cocaïne et des stéroïdes. Sale histoire. Donc il n'y a pas de happy end avec cette histoire de Ben Johnson qui est donc passé très brièvement par la gloire pour tomber tout en bas, jusque dans les oubliettes de l'histoire du sport. C'est quelqu'un qu'on a essayé d'effacer de l'histoire. Et donc, il a ouvert la porte en se faisant prendre à l'époque du dopage suivante, celle de l'EPO, qu'on verra peut-être un autre jour, notamment avec l'affaire Festina et puis Lance Armstrong et tous ces gens du vélo qui ont laissé eux-mêmes leur place une fois qu'ils se sont fait prendre. Le bilan de cette histoire, il est assez clair. Les gens qui se dopent ont toujours un temps d'avance sur les gens qui cherchent les gens qui se dopent. Grand écart, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Mathieu Lecomoresi et Alexandre Duval à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode et en podcast sur le site de Jet FM. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à faire tourner l'épisode si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!